Chapitre 27. Le soleil se déversait par les fenêtres en verre soufflé du palais Wrangelska, où loge la cour d'appel. L'avocat de Jurek Walter précisa que son client était durement éprouvé par le procès. Son état psychique ne lui permettait pas d'expliquer les raisons de sa présence sur les lieux du crime au moment de sa capture. Yona était appelé à témoigner, et il décrivit tout le travail d'investigation qu'avait mené à l'arrestation. L'avocat de la défense lui demanda s'il pensait possible que l'exposé des faits présenté par le procureur soit fondé sur une supposition erronée.
« Mon client a-t-il pu être condamné par le tribunal de première instance pour un acte commis par quelqu'un d'autre ?»
Yona croisa le regard angoissé de l'homme de loi et revit mentalement la scène où, sans pour autant se montrer agressif, Jurek Walter repoussait la femme dans le cercueil chaque fois qu'elle tentait d'en sortir.
« Je vous le demande puisque vous y étiez, » poursuivit l'avocat. « Peut-on imaginer qu'en réalité, Jurek Walter essayait de sauver la femme dans la tombe ?»«
Non, » répondit Yona. Après 2 heures de délibération, le président de la cour d'appel déclara que le jugement du tribunal de première instance était maintenu. Pas un muscle ne bougea sur le visage de Jurek Walter pendant la lecture de la peine renforcée. Il était condamné à des soins psychiatriques sous contrainte. Le jugement était assorti de clauses particulières stipulant que seul un tribunal administratif était habilité à décider d'une éventuelle sortie. Eu égard à son implication immédiate dans plusieurs enquêtes préliminaires en cours, des restrictions particulièrement sévères lui furent également appliquées. Quand le président de la cour d'appel eut terminé le prononcé de la sentence, Jurek Walter se tourna vers Yona. Son visage était sillonné de fines rides et ses yeux clairs vinrent croiser les siens.
« Bientôt les deux fils de Samuel Mendel vont disparaître, » dit Jurek d'une voix mesurée. « Et Rebecca, la femme de Samuel, va disparaître, mais... Non, écoutez-moi, Yona Lina. La police va enquêter, et quand elle abandonnera, Samuel va poursuivre les recherches, mais il finira par comprendre qu'il ne reverra jamais sa famille et il se donnera la mort. »
Yona se leva pour quitter la salle d'audience.
« Et votre fille, la petite Lumi ?» poursuivit Jurek Walter en examinant ses ongles. « Faites bien attention à ce que vous dites !»« Lumi va disparaître !» chuchota Jurek. « Et Souma va disparaître. Et quand tu auras compris que tu ne les retrouveras jamais, tu te pendras !»
Il leva la tête et regarda de nouveau Yona droit dans les yeux. Son visage reflétait un grand calme, comme si son règne était déjà instauré. En règle générale, le condamné était ramené en maison d'arrêt dans l'attente de son transfert vers un établissement pénitentiaire ou une institution psychiatrique. Le personnel de la maison d'arrêt de Kronoberg était cependant si impatient d'être débarrassé de Jurek Walter qu'un transport fut mis en place, directement du palais de Wrangelska, vers une unité sécurisée de psychiatrie médico-légale à 20 km au nord de Stockholm. Jurek Walter devait être maintenu en isolement total dans l'unité la mieux surveillée de Suède pour un temps indéfini. Samuel Mendel considéra les menaces de Jurek comme des paroles en l'air, prononcées par un homme vaincu, alors que Yona était persuadée que l'avertissement avait été proféré comme une vérité, un fait établi. On ne retrouva pas d'autre corps, et l'enquête préliminaire fut bientôt jugée non prioritaire. Même si elle n'était pas formellement classée, elle s'éteignait d'elle-même à petit feu. Yona refusa d'abandonner, mais les morceaux du puzzle étaient trop peu nombreux et toutes les pistes donnaient sur des impasses. Bien que Jurek Walter soit arrêté et condamné, il n'en savait pas plus sur lui. L'homme demeurait une énigme. Un vendredi après-midi, 2 mois après le procès, Yona prenait un double expresso avec Samuel à l'île Café, près de l'hôtel de police. Ils menaient d'autres enquêtes désormais, mais se rencontraient régulièrement pour discuter du cas de Jurek Walter. Ils avaient examiné les pièces du dossier d'innombrables fois, sans trouver quoi que ce soit qui confirmerait l'existence d'un complice. Leur acharnement prit bientôt les allures d'une sorte de jeu, consistant à soupçonner et désigner coupable n'importe quel quidam innocent, lorsque l'horreur frappa.